Vous écoutez
RMC.
RMC.
Tu as 0 points, c'est qu'il va falloir prendre des points.
Il faut prendre 3 points. Mais chaque match vaut 3 points.
C'est capital, les 3 points qui sont en jeu demain.
Pour nous, ça reste un match à 3 points.
C'est plus que 3 points ce soir ?
Ben non, c'est 3 points.
On a pris les 3 points. C'était bien pour nous parce qu'on a pris 3 points ce soir. Après, prendre les 3 points, c'est magnifique. Mais nous, on est contents parce qu'on a pris les 3 points ce soir.
La coupe concerne tout le monde. On est surtout content d'avoir pris ces 3 points.
Mais on mérite les 3 points.
Jusqu'à minuit, les 20 ans de l'afterfoot en direct de Valence.
Gilbert Bribois.
Il est 23h03, nous sommes toujours en direct du pâté de Valence avec vous tous qui êtes venus nous voir ce soir. Et encore merci d'être venus, merci également au cinéma pâté, parce que là vous êtes tout de même près de 400 ce soir à être venus pour la tournée de l'after avec Florent Gautreau, Daniel Riolo, Jean-Louis Tour. Tottenham, Leeds, un partout, on est dans le temps additionnel, donc bon, pas une super opération pour Tottenham une nouvelle fois qui lutte pour
ça se maintenir. C'est quoi le même score ?
Un partout. C'est pas fini, il reste quelques secondes.
Et quand t'es dans le bas, quand tu grattes un point.
Ouais. Bah ouais, éventuellement t'es content. Voilà. Mais là, au classement, c'est quand même pas top pour Tottenham, qui reste quand même en danger. Le PSG, attention Daniel, un message à faire passer. Jingle. Riolo, c'est parti.
Hey, monsieur, le carton, il faut donner le carton.
Voilà, je sais pas trop qui t'imiter, mais. Enfin, si je sais.
Bah, Verratti.
Ouais.
Si tout le monde se souvient. Ouais, le message, parce que on est une sorte de petit virage là, on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure, entre ce qui se passe, vous avez vu qu'il y a eu l'interview de Maxime Saada, il y a eu la réponse de Nicolas Tavernon, on n'avance pas des masses en termes de droits télé, la situation économique des clubs français. Pourtant, parallèlement, l'image du foot français s'améliore, en tout cas l'image de la Ligue 1, parce que on a eu un beau championnat. Et dans ce beau championnat, on a une équipe phare, évidemment, qui depuis 15 mois fait absolument tout bien. C'est une équipe qui est absolument formidable, elle s'est rapprochée de tout le monde. Même ceux qui n'aiment pas le PSG sont bien obligés de trouver que l'équipe, elle est séduisante. Même au niveau européen, tous ceux qui n'aimaient pas le PSG sont bien obligés de dire que l'équipe joue remarquablement bien, que l'état d'esprit qui se dégage est génial, que l'entraîneur travaille bien, que les joueurs répondent tout le temps présent, qu'ils donnent tout sur le terrain. On pousse le truc jusqu'à avoir des tribunes totalement apaisées. Les supporters, quand ils se déplacent à l'étranger, sont remarqués partout. Ils mettent l'ambiance partout. Même quand il y a un fait divers, comme la dernière fois, ils vont arranger l'expo Vivre Ensemble qui s'est cassé la gueule. Enfin, il n'y a pas la moindre fausse note. On invite des anciens joueurs. Pendant des années, on disait où sont les anciens joueurs au Parc des Princes ? Ils ne viennent pas. Maintenant, ils sont tous là, il y a les anciens présidents, bref, tout le monde est là. Nasser Al-Khelaïfi a réuni toute la cour autour de lui, il y a tout le monde, les laquais, les courtisans, il y a absolument tout le monde. L'image du PSG, elle est extrêmement positive, mais il y a ce point noir, il y a ce truc qui fait que j'y reviens sans arrêt, ils ont dans la main la possibilité d'aider la Ligue 1 et de se mettre de faire en sorte que tout le monde soit sur le même bateau maintenant. On est encore, en plus, j'ai appris qu'on l'a appris aujourd'hui, c'est sorti là, le fameux projet de loi qu'on attendait, 18 mai, va probablement être reporté. On avait du mal à savoir
ce projet de réforme du sport français qui concerne.
Réforme du sport français, de la gouvernance, la fin de la LFP, donc probablement la fin de l'aventure La Brune. Il y a tout pour que le football français prenne un nouveau départ, un nouveau président, un championnat avec les 9 matchs à disposition d'un diffuseur. On sait qu'il y a des diffuseurs qui... Bon, alors Canal, il faudra parler de l'interview de Saada, parce qu'on n'a rien compris à ce qu'il proposait finalement, et j'ai bien l'impression qu'en fait il ne proposait rien, à part la seule chose, c'est qu'il voulait qu'on arrête de dire qu'il tue la Ligue 1, ou en tout cas qu'il ne fait rien pour l'aider. Pourtant, moi j'ai toujours l'impression qu'il ne fait rien pour l'aider. J'ai échangé avec les dirigeants parisiens ce week-end, ça a même été un petit peu chaud, parce que je ne comprends toujours pas pourquoi ils ne veulent pas entraîner tout le monde derrière eux, en faisant en sorte d'arrêter la division, les clans. En fait, on doit pouvoir céder sans attendre que tout le monde soit et devienne des courtisans. Or, j'ai l'impression que le président du PSG, il veut que tout le monde, en fait, soit là devant lui, en gros, à lui cirer les pompes. Non, il faudrait qu'il emmène tout le monde avec lui, qu'on trouve un diffuseur, ou en tout cas un distributeur, et que cette Ligue 1 qui recommence un petit peu à nous emballer avec ce PSG en équipe phare qui plaît à tout le monde en France, même ceux qui l'aiment pas. Même, je suis sûr que même les Marseillais, ils peuvent même plus critiquer aujourd'hui. Ça joue bien, c'est formidable. Donc, il faudrait qu'on mette fin à toutes les divisions. Et forcément, ça va passer par la tête de la LFP. La tête de la LFP, on sait par qui elle est réellement détenue. Elle n'est pas détenue par Vincent Labrune, qui n'est qu'un pantin. Elle est détenue par le grand patron, qui est Nasser Al-Khelaïfi. Donc j'en appelle au PSG pour qu'on mette fin à toutes les divisions et que la rentrée, qui va être très très importante, d'abord que cette loi soit enfin votée pour qu'on combatte le piratage, que ça pousse probablement un diffuseur à venir, ou en tout cas un distributeur, si c'est pas un diffuseur comme avant, qui met des millions. Et que cette Ligue 1 retrouve des équipes et des présidents qui s'entendent et qui arrêtent de se tirer dessus.
Bon, le Daniel Rassembleur, Jean-Louis, est-ce que ça va marcher ou pas ?
Qu'est-ce que tu attends d'eux qu'ils fassent différemment pour être plus rassembleur en fait sur la fin ? C'est ça que j'ai pas bien compris.
Toutes les divisions dont on a parlé au sein du conseil d'administration, en fait, d'avoir la vision que tout le monde doit être dans la hiérarchie. Que lui, c'est le grand patron, parce qu'en fait, c'est sa culture, en fait. Mm-hmm. Sa culture, c'est de dominer, en fait, d'en avoir que des, qu'en face de lui, des pantins, je sais même pas comment dire ça, des laquais, comme j'utilise tout le temps.
Des gens qui lui sont redevables.
Des gens qui lui sont sans arrêt redevables. Que faire chevalier à 50 millions, ça vaut derrière que Lille vote tout le temps en faveur du PSG. Tu vois, d'avoir cette vision-là, d'avoir une vision un petit peu plus égalitaire.
Donc revoir la clé de répartition des droits.
Exactement, mais ça ils commencent à être pour. Donc déjà il y a un pas qui est fait dans ce sens-là sur les droits européens.
Okay.
Ils sont pour. Par exemple, à la différence de Lille ou même de Brest. Je pense qu'ils sont venus foutre la Brest à être contre ça.
Non, mais parce que par exemple, on n'attend surtout pas qu'ils arrivent comme le chevalier blanc qui avec beIN Sport peut racheter les droits,
non,
etc.
Le fantasme
qu'on a entendu pendant longtemps.
Avoir le discours de sans arrêt taper sur Ligue 1 Plus, de dire c'est pourri, c'est de la merde, c'est en fait à quoi ça sert. Il n'y avait pas d'autre solution. Et ils sont sans arrêt en train de dire, il y avait une autre solution, c'était Canal. L'autre solution, Maxime Saada l'a encore dit. En plus, il a menti dans son interview quand il dit que Free également a un contentieux. Enfin, il y a eu un petit contentieux, mais ça n'avait rien à voir avec les montants que demandait Canal, qui étaient de 500 millions. Donc, dire qu'il y avait la solution Canal, quand d'une main, tu dis, je vous tends la main, et de l'autre, tu dis, ouais, mais c'est 500 millions.
Free, pour comprendre, c'est parce que Nicolas Taverneau a dit, on part avec vous si vous arrêtez les poursuites judiciaires contre la Ligue, et Maxime Saada dit avoir des poursuites judiciaires ça n'empêche pas de faire affaire,
oui, puisqu'avec Free, regarde Free alors que c'est faux. Bref, et comme je sais qu'ils sont dans ce camp-là, que Nasser et les gens qui sont avec lui sont dans ce camp-là, je ne le comprends pas. Parce que l'interview de Saada, je ne la comprends pas. Je ne comprends pas ce qu'il propose quand il dit « je tends la main ». Parce que le titre de l'interview, c'est « je tends la main ». Tu tends la main de quoi, en fait ? Tu veux faire quoi ? Qu'est-ce que tu proposes ? Tu veux même pas le mettre la chaîne dans ton pack sport ? Qu'est-ce que tu proposes ?
Ils ont les mêmes positions qu'il y a un an.
Exactement. Donc, en fait, on ne comprend même pas la sortie. Si ce n'est juste qu'il a plus envie qu'on dise que Canal ne veut pas aider la Ligue 1. Mais oui, montre-le clairement que tu veux aider la Ligue 1. Fais quelque chose. Et par ailleurs, un diffuseur comme DAZN pourrait très bien être intéressé. Parce que l'image de la Ligue 1, c'est totalement arrangé. Parce que pour la première fois, il y a les 9 matchs à disposition. Donc, il y a d'autres gens qui peuvent être intéressés. Donc, est-ce que Canal est venu faire cette interview justement parce qu'ils se disent qu'il y a maintenant possiblement quelqu'un d'autre ? Je n'ai rien compris à l'interview de Maxime Saada. S'il veut venir dans l'after nous expliquer ce qu'il a proposé dans cette interview, je n'ai pas compris. Si vous avez compris quelque chose, dites-moi.
Moi, je me suis fait une réflexion et après, je laisse la main à Flo. Mais je me suis dit, les positions ne sont pas prêtes de se rapprocher à partir du moment où lui prend la parole publiquement et où Nicolas Taverneau répond publiquement. Parce que pour moi, ce genre de business...
Pour ceux qui n'ont pas tout suivi, on l'a pas dit. Rappelons quand même ce qu'il dit. Saada, il dit, moi, je suis prêt à distribuer la Ligue 1.
Voilà, oui, mais sans le mettre dans le pack sport, à la chaîne.
En tout cas, moi, c'est juste que ce que je me suis dit, c'est que si publiquement les deux s'expriment, c'est qu'ils sont pas en train de faire des affaires, parce que normalement, ils le feraient hors des médias, ils ont tous les numéros, et si vraiment il y avait
rapport.
Et du côté du PSG, de continuer à dire, Taverneau, il est nul, Ligue 1 Plus, c'est nul, c'est pas ça qu'il fallait faire. Mais on s'en fout, faut regarder devant maintenant. Faut arrêter de dire Ligue 1 Plus, fallait pas le faire. Mais qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme solution? À chaque fois, je leur pose cette question, ils me donnent pas de réponse.
Florent, en fait, moi, je suis assez d'accord sur l'aspect politique, c'est-à-dire qu'il y a vraiment encore des pas à faire, et tout simplement et très concrètement sur les clés de répartition. Même si, effectivement, on commence à voir, pour la première fois depuis 10 ans, des phrases dans des interviews concernant les droits européens sur cette ouverture. Mais je suis d'accord sur cette partie-là. En revanche, sur l'image, je trouve que les progrès et ce que ça donne et ça apporte à la Ligue 1, ce que tu racontais du PSG cette année, c'est tellement plus important. C'est tellement important. À l'inverse, si tu regardes les autres équipes, puisqu'on tape beaucoup sur le PSG, enfin on a beaucoup tapé à une époque, et à juste titre parfois sur le PSG, c'est parti des tribunes à une époque qui sont maintenant pacifiées, du projet sportif qui était ridicule, qui ne l'est plus, du coach qui a fait progresser d'ailleurs. Bref, on ne va pas refaire l'histoire. L'OM à Bruges en Ligue des Champions. est-ce que ça n'abîme pas plus, tu vois, l'image, tu vois, juste en un match comme ça, tu vois, du foot français que le PSG quand ils alignent. Alors ça, non mais,
ça n'a rien à voir. Je parle pas du sportif, moi.
Oui, mais pour te dire que l'image, tout ce que fait le PSG en termes d'image sur le sport et sur la Ligue 1, ça apporte quand même beaucoup aussi à tout le championnat.
Bah non, donc, ça apporte rien du tout. Ça ne fait pas tomber de l'argent, en fait.
Hein. Non, oui, mais ce que je veux te dire, c'est que tu as quand même aujourd'hui, qualitativement, des joueurs, une image.
Mais ça donne rien aux autres.
Oui, mais ça
donne rien.
Ça, c'est sur les clés de répartition aujourd'hui. Mais n'empêche que cette Ligue 1-là.
Non, mais passer un accord avec un diffuseur, un distributeur.
Oui, d'accord.
Il n'y a que le PSG qui pourrait être le moteur de ça.
Mais après, quand tu vois la S. Moi, je dis aussi aux autres clubs d'être concurrentiels avant même d'avoir, d'obtenir ces droits-là.
Ils font le maximum pour l'Est.
Non, mais l'ASM, par exemple, l'AS Monaco, qui est ridicule, qui est régulière, qui ne brille pas. Oui, mais tu as moyen de faire beaucoup mieux déjà. Que ce que les autres clubs font à côté.
Très bien qu'ils peuvent faire mieux, mais essaye de faire en sorte que tout le monde aille dans le même sens.
Non, mais moi,
crée quelque chose.
D'accord que plus globalement, la répartition doit être plus
la loi, il faut absolument, et ça, c'est, je fais un pas de côté, le ministère des Sports, alors bon, pour être tout à fait complet sur ce point-là, le 18 mai, en fait, on ne pourra pas voter la loi sur le sport parce que la loi sur la programmation militaire prend toute la place. Et donc ça va être un embouteillage et donc ils ne pourront pas voter la loi sur le sport le 18. A priori, il y a très peu de chances, on est à 90-10 maintenant et surtout qu'il y a 200 amendements à la loi sur le sport. Il faudrait pas qu'elle soit totalement dénaturée, mais il y a des choses qui sont essentielles dedans. Il y a des choses qui sont essentielles, réforme de la gouvernance, lutte contre le piratage. Le ministère des Sports doit se rendre compte que ça qu'il faut foncer sur cette loi parce que ça doit, et d'ailleurs Maxime Saada dans son interview était pour parce que ça peut aider des diffuseurs ou des distributeurs à s'intéresser à la Ligue 1, à revenir. Et c'est ça qui donnera des moyens. Flo, je veux bien entendre, moi, que Monaco et Marseille, ils ont mal travaillé, que donc, le peu d'argent qu'ils avaient, ils ne l'ont pas bien utilisé. Mais, tu sais, c'est comme si tu dis à un pauvre dans la rue, eh, dis donc, je t'avais donné 5 balles, t'es allé manger un McDo. T'es, vas-y, donne-moi 110, on verra bien quand même si à un moment, je vais pas t'émerder pour faire mieux.
Il y a une différence entre le gars qui a que 5 balles.
Donne-moi quand même toujours un peu plus et on verra quand même.
Il y a une différence entre le gars qui a que 5 balles et le PDG d'une grande reprise et le PSG et Monaco. Ils ont pas que 5 balles et si tu veux, ils ont une image. Non, mais j'ai compris.
Le raisonnement,
moi, j'ai compris, mais ce qui est politique, là où
t'as raison. Fais en sorte d'avoir une distribution normale.
Non, mais là où t'as raison, c'est que.
De pas tout accaparer.
Non, mais moi, par rapport à ton avis, ce qui me gêne juste, c'est de dire, c'est le PSG qui doit décider. Comme tu l'as dit.
Parce que c'est eux qui ont le pouvoir.
Ouais, mais regarde, les politiques en France, on attend cette proposition de loi, ils ont pris la main sur ce sujet-là. Donc, c'est aussi.
Où sont les politiques qui mangeaient la gamelle dans la corbeille
du pain? Mais là, en l'occurrence, tu vois.
Tu sais, les liens forts que le Qatar a politique et économique.
Ça peut changer des choses sur le piratage et sur le reste. Donc, ce que je veux dire, c'est que il faut pas faire porter
une pancarte trop importante. Et dans le combat à 100%. Là-dessus, il n'y a rien à leur dire là-dessus.
Il faut pas faire porter un chapeau trop grand au Paris Saint-Germain, surtout.
Mais le chapeau trop grand, c'est eux qui l'ont enfilé, Flo. C'est eux qui l'ont mis. Nasser Al-Khelaifi, il a enfilé le chapeau. Il a le chapeau de l'UEFA.
Oui, mais ils en portent.
Oh, le Qatar est le premier partenaire économique de l'UEFA.
Tout ce que tu as décrit dans le début de ton avis.
D'intérêt.
Oui, mais
c'est juste énormissime.
Tout ce que tu as décrit dans le début de ton avis tranché, c'est néanmoins aussi tout ce qu'ils ont apporté là sur ces quelques années.
Je l'ai dit.
Oui, non mais.
Donc. En plus, tu sais que ça ne leur enlèvera rien. Ça va pas leur mettre une épine dans le pied, hein, de rassembler tout le monde. Ça va rien leur enlever. On va pas leur enlever l'assiette de devant eux. C'est bon, ils vont continuer à manger. T'inquiète. Hein.
Pourrait y avoir un premier truc concret, c'est de plus siéger dans les instances de la Ligue et de laisser les autres présidents un peu à la manœuvre.
Absolument, absolument.
Ce qui n'enlèvera pas grand-chose.
Ou en tout cas, déjà, de ne pas avoir deux voix de façon trafiquée comme ils ont. Quoi.
Avec le DG du club qui est président du syndicat des clubs de Ligue
1. Et ne pas voir tout avis contraire comme une guerre. Parce que le problème, c'est que dans sa mentalité, quand tu n'es pas d'accord avec lui, tu es un ennemi. C'est une vision que j'ai du mal à comprendre.
Et d'ailleurs, on parlait de communication tout à l'heure, et on sait pourtant qu'il y a des gens qui s'en occupent, mais comme elle avait fuité cette fameuse réunion, tu sais, du mois de juillet, et qui a fait...
Les fameuses écoutes.
La réunion avec Jean-Pierre et Jean-Bière et compagnie.
Oui, c'est ça.
Oui, c'était celle-là, ouais. Mm. Et ben, c'est vrai que Jean-Bière, là, en termes de communication, bon, même si ça avait fuité, c'est vrai que ça avait fait beaucoup de mal.
Et donc Nicolas Taverneau a dit, on se réjouit que Canal+ redécouvre la Ligue 1, ce qui n'a pas toujours été le cas. Il dit, première condition, c'est Canal retire ses procédures, il y en a 8 en cours.
On a le droit de trouver ça hallucinant quand même, non? Il les perd à chaque fois.
Il y a quand même un autre truc aberrant, et là on met le PSG de côté, c'est que donc Nicolas Taverneau va quitter son poste. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Qui prend les décisions? Qui anticipe? Qui bosse
là,
sur le sujet?
Alors là, ils sont en train de chercher un successeur, et je peux t'assurer que le PSG cherche à peser de tout son poids.
Bah voilà.
Non, pourquoi donc, pas?
Non, mais ça fait combien de mois?
À chaque fois, il leur faut un laquais. Eux, ils ne veulent tout le temps que quelqu'un qu'ils tiennent dans leurs mains.
Non mais ça c'est une fois, j'ai compris.
C'est quand même une vision qui est un peu permets-moi, on a le droit de trouver ça un petit peu vicieux comme vision de la vie quand même et vision de la politique. Mmh. C'est d'avoir c'est de n'avoir que des laquais, des courtisans.
Non mais surtout ce serait pas à eux de décider. Même s'ils pèsent autant que tu veux, ils devraient réfléchir à un système pour que ce soit pas le cas, et surtout un système pour qu'il y ait quelqu'un à la tête d'LFP Média plutôt que là début mai pour préparer l'année prochaine.
LFP Média et LFP tout court.
Dans un instant, on continue le débat autour du Paris Saint-Germain. Je crois qu'il y a quelques supporters parisiens dans la salle qui pourront venir là autour du micro. Ensuite, on passera à Rennes. Dans l'after, il est déjà 23h17. On se retrouve tout de suite ici en direct de Valence et du cinéma Patrick.
RMC, jusqu'à minuit, les 20 ans de l'after foot en direct de Valence.
Gilles Bribois.
On est là jusqu'à minuit avec vous tous, il est 23h20, toujours en direct du cinéma Pâté de Valence, avec Florent Gautreau, avec Daniel Riolo, avec Jean-Louis Tour. Jean-Louis, RMC a dévoilé aujourd'hui son dispositif pour la Coupe du Monde. Donc oui. Vous qui écoutez la
conférence de presse, disons.
Soyez attentifs parce que la Coupe du Monde arrive.
Par JC Drouet.
Toujours bon pour animer.
Formidable.
Animer. Il a fait une très bonne blague pour Flo au début quand même.
Ah, il a fait une référence à Michou.
Il a dit voilà, vous attendez peut-être à ce qu'on parle de Michou parce que voilà, ça a été un peu le buzz sur M6 puisqu'il sera là. Et il dit non, Oudopo, à la limite, on peut vous parler de Tiramichou.
Mais c'est exact.
Et ça, c'était une très bonne vanne, non?
Bah, pour JC, bien sûr. Oui. Quand même.
Okay. C'est du niveau de Casar, quoi.
Et de Flo.
Ah, moi, je dis que c'est bien tenté.
Flo, il valide,
je pense. C'est bien tenté, JC, je valide, bien sûr.
JC est capable de faire beaucoup mieux.
Donc, la Coupe du Monde, c'est dans un mois, mine de rien. Ça commence à frétiller, là. Donc, tous les matchs sur RMC.
Oui.
Nuit de l'after jusqu'à 5h du matin.
Tous les matchs, quelle que soit l'heure du match, effectivement.
Quelle que soit l'heure du match, parce qu'il y a des matchs en pleine nuit, notamment le fameux Argentine-Algérie qui est en pleine nuit, 3h du matin.
Nous, sur place, déjà.
Voilà, nous sur place.
L'after sur place, exactement. 10 reporters qui vont commenter les matchs sur place, faire du reportage, remonter les infos, notamment sur l'équipe de France. Et donc,
le Faucon installé à New York pour toutes les infos bleues.
Ah bah bien sûr, le Faucon, il a été mis sous pression aujourd'hui.
Et une radio digitale 24/24.
Exactement.
Donc, d'où le slogan 32h sur 24.
Ben, j'ai pas bien compris le calcul. Karim Nedjari, notre directeur général.
Il a fait la radio digitale plus la radio, plus les 8 heures.
Je suis pas sûr qu'il ait bien compté pour autant.
Bon, voilà. Donc, vous aurez tout sur RMC, quelle que soit l'heure, vous aurez tous les matchs.
Et deuxième partie de la Coupe du Monde où on sera, on dit ça pour le public qui peut venir, où on sera au restaurant de l'after d'Oppo, la deuxième partie de la Coupe du Monde pour toutes les émissions sur place.
On a avec nous Aymeric et Jérémy, supporters du PSG. Aymeric, bonsoir.
Bonsoir.
Jérémy, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Vous commencez à compter les jours, les gars, là?
Ah, là, ça approche, ouais.
19 jours?
On est tendu, là.
C'est vrai?
Oui.
Bah, déjà?
Pourquoi tendu?
Ah bon?
Non, on sort.
Bien, franchement.
Est-ce que vous tentez d'avoir des places, déjà?
Franchement. Ah, aujourd'hui, encore une belle initiative du PSG, puisque j'en parlais tout à l'heure. Le package est sorti, 300 balles.
Ah oui, je peux, ouais.
300 balles, avion, hôtel, billet. Honnêtement, j'imagine qu'il ne va pas y en avoir pour tout le monde, mais les chanceux qui vont tomber là-dessus, c'est formidable.
Même très belle initiative.
Oui, c'est pardon ça, c'est pour le CUP.
Pour le CUP.
Ah, ils vont en profiter.
Il faut être membre du CUP pour bénéficier de ça.
Oui.
Bon, après, c'est des gens qui sont au stade.
C'est logique aussi, ils ont fait tous les déplacements.
On vive le stade. Moi, ça me pas scandaleux. Enfin, je sais pas, ça te plaît pas comme stratégie? T'es contrarié?
J'avais pas trop les moyens d'y aller, de toute façon.
Bon, de toute façon. les gars, quand vous entendez toutes les histoires, parce qu'on en parle souvent dans l'after, c'est intéressant d'avoir votre avis. On parle souvent dans l'after des coulisses, de l'influence du PSG, du Qatar, de Nasser Al-Khelaïfi, du refus de financer par certains billets le foot avec beIN Sport, pour obtenir par ailleurs. Enfin, vous, tout ça,
est-ce que les calendriers dont on fait ce qu'on veut.
Est-ce que, honnêtement, en tant que supporter du PSG, ça vous intéresse? Ou alors, est-ce que vous en avez, mais alors, rien à cirer, parce que ce qui compte pour vous, c'est le terrain. Aymeric, pour démarrer.
Franchement, c'est dur de. On s'y intéresse. Hein. C'est normal de s'y intéresser. Après, c'est toujours pareil. C'est le gros club qui. C'est la locomotive du foot français. C'est pas normal. Ils ont trop d'avantages. C'est que les règles sont trop permissives. Si t'as des règles strictes. J'écoutais un débat où ça disait si on avait le droit à un report dans la saison, ou enfin, s'il y avait des règles très claires. Le club, il pose son joker et dit on reporte un match. Sur le principe, ça s'entend. Là, le problème, c'est que, vu qu'il n'y a pas de règles, et que clairement le PSG est tout puissant, parce que s'il n'y a pas de PSG, il n'y a pas de Ligue 1. Même si la Ligue 1 progresse, que le spectacle est sympa cette année, s'il n'y a pas le PSG, il n'y a pas de Ligue 1. Donc, à partir du moment où on part de ce constat-là et qu'ils font ce qu'ils veulent, eh ben tu leur accordes tout, parce que tu sais que si tu leur accordes tout, t'as une chance qu'ils aillent loin et que ça nous rende la Ligue invisible. Donc le problème est plus l'absence de règles, l'absence de poids des instances.
T'en penses quoi toi, Jérémy ?
Bah moi c'est pareil, je m'intéresse parce que j'en ai marre qu'on tape sur le PSG, qu'on dise j'ai pas envie que en fait le PSG devienne un peu le Marseille de 93, qu'on se dise tout est permis avec Paris, enfin tout ça quoi.
J'ai envie c'est pourtant la vérité que tout est qu'ils contrôlent tout, ils cherchent à tout contrôler, c'est ça qui est terrible. C'est que j'aimerais moi ne pas avoir à souligner ce genre de choses. J'aimerais que le président soit plus ouvert et ne voit pas la vie que sous la forme d'une domination. Et malheureusement, c'est pas le cas, donc on est bien obligé d'en parler.
Maintenant, c'est vrai que dans l'histoire du foot français, dans l'histoire du foot tout court, t'as toujours eu un club dominant.
Et alors, ça veut dire que c'est bien ?
Non, c'est pas que c'est bien, mais la comparaison que Jérémy fait, il dit c'était Marseille dans les années 90. À un moment, ça a été Bordeaux.
Lyon.
Ça a été Lyon année 2000, enfin.
Lyon année 2000, exactement.
C'est malheureux.
On avait les mêmes débats il y a 15 ans sur Lyon avec Jean-Michel Aulas, hein.
On faisait des reproches, en tout cas.
C'était
pas exactement les mêmes débats, mais on faisait des reproches.
Je pense qu'on n'était pas exactement dans...
C'est pas le même niveau.
Dans la même domination. Mais oui, je comprends ce que vous dites, oui. Mais ça veut pas dire que c'est quelque chose de normal. Ça se passe pas comme ça dans les autres pays, hein.
Et je parlais plutôt du Marseille des... Marseille des magouilles, en fait.
Du Marseille de la corruption.
Voilà.
Bah, ça a parfaitement existé, bien sûr. Alors, ça n'est pas l'ordre des magouilles qui ont été révélés sur l'OM sont pas du tout les mêmes à Paris, mais quand ils font quand ils font toute leur histoire du report de calendrier ou quand au sein du conseil d'administration ils font en sorte d'avoir plus de voix, moi ça m'emmerde. C'est quelque chose qui n'est pas de la corruption, qui n'est pas de je te mets une mallette
pour
c'est
de l'influence.
Mais moi ça m'emmerde. J'aime pas ces façons de faire là. Je pense que tu dois pouvoir faire autrement, surtout quand t'as autant de moyens, que t'es aussi puissant et puis que surtout, comme disait Flo tout à l'heure, après des années où on pouvait les critiquer pour leurs projets sportifs ridicules, tu arrives sur les 15 derniers mois, parce que les 15 derniers mois, enfin, tu marches sur l'eau, tu voles, quoi. T'es juste fabuleux et toutes les décisions que tu prends sportivement et même dans tout ce qui est l'environnement, toi, je vois ton maillot, je pense au nouveau maillot qui est sorti, c'est extraordinaire.
Oui, parce que là, tu as un maillot historique.
96.
Voilà. Coupe des coupes. 96.
En fait, il y a un truc. Ce qui est dans l'évolution actuelle, ils ne sont pas prêts encore à aller jusqu'où demande Daniel, on va dire politiquement. En revanche, ils ont raté quelques occasions cette saison, avec notamment le report de Lens PSG. Par exemple, ça fait partie des occasions, des moments où, entre guillemets, ils auraient pu montrer que ils ne voulaient pas aller sur ce terrain-là, qu'ils étaient capables de gérer ça, et c'était le cas évidemment avec la profondeur de banc, avec leur budget. Et là-dessus, j'ai bien aimé à l'inverse la réaction de Pierre Sage, par exemple, qui a été très net, très clair pour dire que c'était un scandale et que c'était inacceptable. Et ça, c'est une occasion manquée. Je pense que, comme dit Daniel, ils en ont réussi, ils en ont marqué, on va dire, pour reprendre le terme footballistique, des occasions en termes de com aussi et de visibilité. Mais celle-là, ils l'ont ratée. Et celle-là, elle était quand même importante parce que. Même si Lens a finalement perdu des points ailleurs et avant, c'est dans l'image de la Ligue 1 de cette saison un peu formidable et assez sympa, c'était une occasion manquée. Ils ont encore des progrès à faire.
Alors à propos de la finale, on a confirmation aujourd'hui qu'il n'y aura pas de fan zone à Paris pour le match PSG Arsenal. Donc il y avait
ça c'est logique. Hein.
On va dire que la mairie voulait
c'est
le faire.
Malheureusement logique.
La préfecture a dit attendez, vous êtes bien gentils, mais c'est avec nous que vous devez discuter pour que ça se fasse. Le ministère de l'Intérieur ne voulait pas non plus que ça se fasse. Évidemment suite aux incidents de l'autre soir.
Je comprends pas bien.
Donc, pas de fan zone, mais a priori diffusion au Parc des Princes de la finale. Ouais. Ça c'était
l'année dernière, c'était fantastique c'était quand ils l'ont fait.
C'est plus facile à sécuriser sans doute, mais il y a un truc, c'est que l'UEFA a donc décidé de mettre la finale maintenant à 18h. On a compris que c'était pour des raisons de sécurité un peu partout, et tant mieux. À partir du moment où tu as cette mesure-là et qu'une fan zone, c'est aussi un endroit plutôt délimité, je me dis que si tu n'es pas capable de faire ce que les fans
certains disent qu'une fan zone, c'est beaucoup plus sécurisé que de rien faire.
Bien sûr. C'est pour ça que je m'étonne de ça. On a vu des fan zones à l'occasion des différentes Coupes du Monde, je sais pas, d'Europe, qui étaient vraiment formidables et qui sont des rendez-vous à des endroits très clairs et donc normalement sécurisés. Alors après, moi, je connais pas les moyens de sécurité que ça demande d'avoir autour du parc plus d'une fan zone à Paris, mais il me semblait qu'à cette heure-là et avec une ville comme Paris, ça me semblait être possible aussi.
Je pense que les forces de l'ordre sont assez sollicitées tout au long de l'année. On n'est pas obligé encore autour d'un match de foot. Je peux comprendre que les Parisiens, le contribuable parisien, on a un petit peu à la casquette à un moment des incidents en ville en permanence. Donc je sais pas comment ils vont canaliser, mais vu ce qui s'est passé l'année dernière, ils avaient verrouillé les champs pour laisser les gens venir et nous on y était, on était au balcon. ce que j'ai vu ce soir-là, je pensais pas le voir un jour en France. Hein. C'était le Moyen Âge. Hein. Donc c'est mieux si on revoit pas, mais je pense qu'on va le revoir quand même.
Bon, et puis il y a la Coupe du Monde derrière, donc va y avoir un mois de juin
voilà.
Chargé, peut-être aussi en fonction voilà. Du parcours
et pour les forces de l'ordre,
l'équipe oui. De France. Pendant que je vous tiens, parce que c'est intéressant d'avoir votre avis, s'il y a un personnage du club, là je parle de terrain, hein, que vous voulez ressortir cette saison, ce serait qui ? La Dembélé a été élu meilleur joueur ce soir.
C'est Guevara. On dit qu'il choisit ses matchs, mais c'est vrai. Mais dès que ça compte,
tu t'en fous qu'il choisisse les matchs. Mais quand il choisit les bons, c'est ça.
Les bons, ça va.
Alors je vais faire mon romantique, mais je me rappelle Zidane à l'époque, les années de Coupe du Monde et d'Euro, il faisait des saisons moyennasses, si je suis gentil. Par contre, il arrivait en pleine bourre à la compétition parce qu'il se préservait. Un Guevara, il s'est préservé, il a été blessé.
Oh, lui, il est pas à la Coupe du Monde
longtemps. Par contre, quand ça compte, dès qu'il y a
besoin de quelqu'un, ça a eu.
Il est hallucinant.
Quand il a été moins bon, quelle incidence ça a eu sur les résultats?
Aucune. Et puis il est hallucinant. Quand on a des grands joueurs. Comme Vara, comme Dembélé, comme d'autres, qui sont capables de se dépouiller. On a un Ballon d'Or qui sera à 100e, qui s'en moque.
Et puis il
est content.
Je pense que tu l'as compris, mais il faut le redire. Enfin, ce PSG, il est très fort, mais quand on voit ce qu'il fait sur le terrain, cette impression qu'ils volent, qu'ils vont plus vite, mais il n'y a pas de miracle. C'est aussi la condition physique qui fait qu'ils sont comme ça. Donc la préparation physique et donc le fait de s'économiser et de pas être à fond tout le temps. Ils prennent pas des vitamines, ils mangent pas du cheval tous les matins. Quand tu les vois sur le terrain, on a l'impression qu'ils vont à 2000 à l'heure par rapport aux autres. Bah, c'est aussi parce qu'il y a une prépa physique qui est parfaitement huilée et qu'il y a des mecs qui ont choisi leur match, il y a des mecs qu'on a reposé. Tout a été, je le dis depuis le début de la saison, scientifiquement préparé.
Aujourd'hui,
tu peux avoir les meilleures intentions du monde et Luis Enrique a les meilleures intentions du monde dans le jeu qu'il veut faire pratiquer à son équipe. Il a managé ça parfaitement dans le sens où il a eu l'équipe qu'il voulait avec les caractères qu'il voulait et il a tout bien fait de ce côté-là. Prépa mentale, tout est au point. Après, pour que les mecs te redonnent autant physiquement, parce que je sais pas si on se rend compte de ce que donnent les Parisiens physiquement. C'est juste fou. Ils sont fantastiques.
Pour revenir à ça, la grande marche, sur Guevara, je suis d'accord. Après, c'est assez simple puisque dans le système accepté par tout le monde et tous les joueurs, si tu n'es pas bon, même en Ligue 1, tu joues pas, tu sors rapidement. Donc, après tout, il n'y a pas trop de casse. Tu mets un autre joueur et ça se passe bien.
Non, tu mets pas un autre joueur et ça se passe bien. T'as des mecs dont tu peux pas te passer dans cette équipe.
Hein. Non, mais je parle en Ligue 1. Je parle donc
en Ligue 1.
Oui, parce que dans certains matchs de Ligue 1, il a pas été à la hauteur.
Maintenant, on a plus de compo mystère. On dirait Guevara, quand on se faisait avec Guevara, faut qu'il soit au top pour que tu vois un PSG au sommet. Mais c'est la même chose pour Doué. Je sais pas qu'on disait Barcola ou Doué. Non, mais c'est Doué le titulaire. Il y a plus de mystère de ce côté-là. Et le milieu de terrain, si Ruiz, il est même à 80%, il joue.
Toi, Jérémy,
sans parler de Vitinha et Neres.
Le personnage de l'année, c'est qui?
Pour moi, c'est depuis 2 ans, c'est Vitinha.
Ah ouais, bien sûr.
Pour moi, c'est le moteur de l'équipe, c'est celui qui donne le tempo, qui le ralentit, qui contrôle le jeu. Hier, j'étais au parc. J'étais dégoûté parce qu'il n'a pas joué. Mais en tout cas, à chaque fois que je le vois, quand je peux aller au parc, c'est magnifique. Comment l'élégance qu'il a aussi. Fabien Ruiz, j'adore aussi ce joueur.
C'est marrant parce que je m'attendais à ce qu'un de vous deux cite Luis Enrique.
Non, mais Enrique, c'est le personnage central. Mais il n'y a pas de place au hasard, en fait. Il a rendu tout professionnel à Paris. L'année dernière, tout le monde dit Barcola, je crois qu'il fait 72 matchs. Mais sur le temps de jeu, il est sur un temps de jeu moyen. Parce qu'il a calculé tous les temps de jeu, il a calculé tout. Tous les éléments du quotidien sont calculés. Tout est préparé. Donc oui, la clé de voûte, c'est Enrique Campos, c'est le schéma à deux. Mais
là où je trouve que ça a été impressionnant, et je le dis d'autant plus que moi, j'ai dit l'inverse à un moment de la saison, je pensais pas que ça irait au bout en Ligue des Champions à cause, on va dire, du système défensif, voire de Marquinhos, pour être clair, dans la défense actuelle. Et ce qui m'a le plus surpris dans le parcours de cette année, c'est les sessions et les séquences à Liverpool pendant 15-20 minutes où ils ont vraiment défendu comme des chiens, ou encore même contre le Bayern au retour, où finalement, à la fois individuellement et collectivement, ce défaut, même le gardien, cette façon, effectivement, sans revenir sur l'histoire de la touche, mais en tout cas sur le fait de le faire dégager loin et d'éviter, comme à Donnarumma, d'avoir les relances courtes à gérer, c'est plutôt cette adaptabilité à laquelle je ne croyais pas défensivement, pour tout dire, qui est pour moi la petite touche supplémentaire.
L'état d'esprit, la façon dont ils sont préparés physiquement et mentalement, a comblé beaucoup de ce qu'on pensait des lacunes. Moi, pour le coup, vraiment, le recrutement, j'étais sur la ligne du PSG, il n'y avait pas à recruter. Et après, oui, Marquinhos, je pense que tu as raison, hein, on le voit sur le terrain, parfois il n'y est plus trop, mais c'est comblé par sa personnalité, son caractère, il est au-delà d'économiser, Marquinhos. Là, maintenant, c'est au compte-goutte, quoi. On a l'impression qu'on le sort du terrain.
Oui, enfin, sauf qu'il a joué le match hier.
Hier, on s'attendait pas à ce qu'il joue.
J'étais surpris. Aucun problème. Tout ça, c'est pensé.
Il a fait 13 matchs de Ligue 1, Marquinhos.
Justement, ça, c'est pensé.
13 matchs.
Ouais. Ça, c'est pensé.
Mais Marquinhos, c'est plus le même joueur, mais c'est plus le même leader non plus. C'est un moins bon joueur qu'il y a quelques années. Par contre, c'est devenu le leader du club. Absolument. C'est l'âme sur le terrain. Ouais. C'est lui qui commande. C'est le boss. On le voit à chaque arrêt de jeu. On le voit à chaque temps fort. C'est le repère. Moi, donc ils le mettent au frigo, ouais. Et dès qu'il y a besoin d'un leader, ils le sortent.
Et pour revenir à Luis Enrique, ce qui me frappe aussi dans finalement le côté non dogmatique dont on qu'il montre, c'est que il s'adapte aux joueurs et à leur niveau de forme. Je pense à Marquinhos. Alors des fois, tu peux pas t'adapter. Contre Chelsea, il a souffert parce qu'il y a eu de l'espace et il a vraiment galéré en vitesse. Mais en faisant en sorte de ne pas avoir à le mettre dans la situation où il va avoir de la profondeur à gérer. Et pour le gardien, j'ai expliqué tout à l'heure, il l'avait fait avec Donnarumma. En fait, tu t'adaptes aussi, on va dire, aux faiblesses.
Oui, il est là pour masquer les faiblesses de son équipe.
À mon avis, c'est aussi un signe d'intelligence plutôt que de dire moi je veux relancer comme ça et on va relancer comme ça. Tu vois, c'est aussi ça. Et peut-être que c'était pas le cas. Peut-être que lui-même a évolué, que moi je le connaissais moins avant et on l'avait dit beaucoup plus dogmatique parfois dans ses schémas de jeu. Donc c'est aussi ça qui est à mon avis intéressant à décrypter dans ce PSG et qui fait que quand tu le vois défendre comme ça à Liverpool ou contre le Bayern. Daniel parlait de l'attachement que même d'autres personnes non supporters du PSG pouvaient avoir pour cette équipe. Je pense que ça, c'est aussi cette image du PSG. Il y avait le collectif, le fait que tu passes et que tu vas pas forcément marquer individuellement. Mais il y a aussi défensivement cette solidarité, pour reprendre le terme par rapport à Marquinhos, qui a, à mon avis, séduit aujourd'hui en France.
Bon, merci les gars. Quand tu te balades dans Valence avec ton maillot, là, tu te fais chambrer un peu ou...
Non, pas du tout. Non.
Pas du tout ?
Non.
D'accord. Merci d'être venu, Aymeric, Jérémy. Et puis,
je peux faire une petite dédicace.
Oui, bien, vas-y.
Je vais faire une petite dédicace au club de l'US Montméran et au président.
Voilà, très bien. Vous êtes venu en force là.
Ah oui.
Très bien.
Qu'a cassé Georges Quirino.
Jérémy ?
Non, pas du tout.
Pas validé ?
Si, je suis d'accord. Moi, j'y ai pensé tout de suite.
Ok. Bon, ben, 2-2.
Rennes, dans un instant. Gilbert,
oui. Quand même, je vais le faire aussi parce que tu sais, j'ai failli arriver à la bourre, mais ouais, grâce à Abdelkader, qui est dans la salle normalement, qui est le chauffeur VTC qui m'a amené donc à l'heure et je voulais lui dédier cette émission. fan de l'after.
Attends, raconte ce qui t'est arrivé là aujourd'hui là parce que il m'a mis un stress lui. C'est pas
possible. Ah oui, il a pas pris de marge aussi. Nous avec Daniel, on avait pris.
Alors écoute, il s'est passé un truc de dingue. Je suis parti une heure écart avant Daniel et Jean-Louis, ouais. Et je suis arrivé 2h30 après. Voilà. Le train a eu 2h30 de retard. On a été dérouté sur Lyon. On a changé de train.
Les gens ne voulaient pas que tu viennes à Valence. La SNCF ne voulait pas que tu viennes à Valence.
Et je suis arrivé à
21h50.
21h40 ouais à la gare 40 oui 40 et grâce à Abdelkader à 21h50 au pâté. Sinon ça sentait le pâté. Ah,
selon certains spécialistes, il a un peu bombardé sur la route. Voilà, c'est pas ce que je comprends. Bon, dans un instant Rennes,
il a fait
programme.
Jacques Mélic ou quoi.
Rennes au programme dans quelques instants, il nous reste 20 minutes encore ensemble ici au cinéma Pâté de Valence. À tout de suite.
RMC 22h minuit, les 20 ans de l'After Foot en direct de Valence.
Gilbert Bribois. Il est 23h39 et l'after est là jusqu'à minuit. Daniel Riolo est là quelque part. Florent Gautreau est là. Jean-Louis Tour est là. On a eu quelques envahissements de terrain là pendant la pub. Voilà, faut retourner dans la tribune, messieurs dames. D'autant qu'un gros sujet arrive sur la table de l'after. Évidemment.
La table de l'after est arrivée autre chose pendant la pub.
Ah oui, on a reçu un gros paquet de chocolat d'auditeurs suisses qui sont venus de Suisse nous voir, donc je les remercie.
Ah,
merci les gars.
Je sais parce que l'auditeur, je l'ai rencontré au Sushi Shop.
Ah bon ?
Tout à l'heure, avec Jean-Louis.
On a l'impression qu'il a fait rendez-vous en terre inconnue, Daniel, quand il va au Sushi Shop.
Non, mais là, t'as vu ce qu'on a reçu là ?
Oui, là, il y a quelques bouteilles.
Alors, ah, j'ai la bouteille là.
Très bien. Ah, mais tu parles de chocolat là, Gilbert. Oui, ils sont là.
Ah, d'accord.
Là, regarde.
Hop. Faites tourner les gars un peu là.
Fais tourner un peu le chocolat pour moi.
Non, vous ne mangez pas pendant l'émission, merci.
Alors il m'a dit, vous mangerez après. David, il m'a dit tu partages ça avec les autres et avec Walid. Je sais pas pourquoi Walid.
Bah, parce qu'il voit Walid qui aime le chocolat peut-être, je sais pas pourquoi.
Mais
alors que moi non.
C'est le sixième sens.
Ouais. Walid est en train de me prendre la place.
Arrêtez de manger.
Ouais, les gars, Rennes au programme, c'est important. Parce que Rennes joue aussi gros ce week-end et Flo veut en parler. Jingle Gautreau.
Des bons sablés au chocolat, Michel et Augustin. Merde.
C'est marrant, tout le monde l'a compris cette blague, je sais pas pourquoi. Ouais.
C'était pour faire un petit rapport avec l'épilation.
Vas-y, on t'écoute.
Ouais, non, je voulais parler de Rennes parce que tout le monde s'extasie un petit peu sur le parcours de Rennes, sur leur cinquième place, sur le fait que effectivement avec le match à Marseille, ils ont encore la possibilité, ils ont même la possibilité d'aller chercher la Ligue des Champions. Mais c'est vrai que finalement, on a un peu oublié en dézoomant le fait que Rennes est quand même une équipe solide financièrement et qui a des moyens, qui a des moyens pour recruter, qui a du budget. Et que cette équipe-là, aujourd'hui, faire l'Europe, c'est finalement quelque chose d'assez normal. C'est vrai que Rennes, aujourd'hui, est cinquième, et c'était l'objectif de la saison au départ, d'être, de retrouver l'Europe. Rennes a un recrutement et des moyens qui sont conséquents par rapport à ses concurrents. Donc c'est vrai que de dire aujourd'hui, j'entends partout, l'exploit rennais, le fait que Rennes est toujours dans le coup, en fait c'est plutôt parce que Rennes a déjoué à un moment donné de la saison, c'est plutôt parce que Rennes a mal géré parfois son recrutement, sa politique sportive, on a parlé de la gouvernance, qu'on se pose ces questions et que maintenant avec un miracle, un retournement de situation, ils peuvent être cinquième, ils sont cinquième, ils peuvent être même troisième et on dit c'est formidable, c'est exceptionnel. Moi je dis qu'effectivement s'ils font Ligue des Champions, là oui, c'est au-dessus de leurs objectifs de départ et ce serait absolument incroyable et donc pour ça il faut qu'ils gagnent à Marseille, mais sinon pour le reste ils font partie des deux équipes que on avait ciblées un peu en début de saison, à savoir Lens et donc Rennes, qui ne jouaient pas de Coupe d'Europe, et Rennes avec des moyens supérieurs et supplémentaires, qui devait de toute façon être l'équipe surprise, l'équipe poil à gratter de ce haut de tableau. Donc moi, ce que j'ai vu en plus sur le terrain, et même avec Francaise, puisqu'il a de meilleurs résultats effectivement qu'Habib Bey et que avec ses prédécesseurs, et que statistiquement c'est indéniable, il a fait des choses sans doute, mais honnêtement dans le jeu il n'y a pas de révolution. Dans le jeu de ce qu'on voit à Rennes, et les deux derniers matchs contre Nantes et le Paris FC l'ont montré, c'est une équipe homogène, il y a une cohésion, il a mis deux trois choses en place effectivement avec la défense à 4, et je l'ai dit en souriant ici beaucoup, j'ai parlé de Tambouret parce qu'il s'était mis dans les roues de cette compo au départ. Il y a pas grand-chose et c'est pas une équipe très flamboyante. Donc tant mieux, parce que ils ont trouvé avec Esteban Le Poll le buteur qu'il fallait cette saison. Ils ont un mec, un playmaker incroyable qui est Valentin Rongier, et ils ont un coach qui a remis tout l'église au centre du village. Mais s'ils sont cinquième, sixième, c'est normal. Ils ont des moyens. Ils ne jouaient pas la Coupe d'Europe. Ils devaient retrouver la Coupe d'Europe cette saison. Il n'y a pas d'exploit, en tout cas, à mon avis, à ce niveau-là. L'exploit, en revanche, c'est vrai que s'ils venaient à gagner à Marseille et s'ils prenaient une place en Ligue des Champions, même une quatrième place, là, oui, on pourrait peut-être parler d'exploit.
Rigaud, vous êtes d'accord avec Flo?
Bah, ton avis consiste quoi? À minorer la performance de...
Oui, Rennes, parce qu'il y a de l'enflammade en disant...
européen, c'était l'objectif. Ouais. Ils ont fait une saison chaotique. Bon, bah, on va dire que c'est à la mode. Marseille a fait la même, Monaco pareil, Lyon pareil, il y a énormément d'équipes qui ont fait ça finalement, à part Paris et Lens. À côté, ça a été très fluctuant, on n'a pas réellement compris le sens que prenait leur saison. Tu parles de moyens. Moi, les moyens, évidemment, on va pas dire que ça ne compte pas, mais c'est surtout très significatif quand tu montes à certains degrés de budget par rapport à d'autres. Là, sur la Ligue 1, si tu me dis Marseille et Monaco, oui. Clairement, là, tu es dans des moyens où, à la fin de la saison, quand on fera le bilan, OM hors zone Ligue des Champions, échec. Monaco, pas en Coupe d'Europe, catastrophe. Bon, Rennes, ils sont dans les clous. Dans ces cas-là, il faut pas oublier de parler de Nice, hein, quand même, qui a un gros budget et qui est en train de jouer le maintien. Donc, je comprends que tu veuilles relativiser Rennes. Bon, maintenant, ils vont probablement être européens.
Notamment par rapport à tous les autres.
C'est bien fait, pour
dans toutes
toi,
les zones.
Tu veux pas qu'on les félicite?
Non. C'est parce qu'il y a une enflammade qui disait, voilà, l'exploit rennais. Tu vois, moi, je pense qu'ils sont à leur place. C'est-à-dire que par rapport à tout ce que t'as dit sur le budget.
Tu sais que dimanche prochain, ils peuvent être en Ligue des Champions. Hein. Il y a un monde où ils y sont. Hein, à la quatrième place.
J'ai exclu dans mon avis.
Oui.
C'est que là,
hors
c'est un
ça,
exploit.
Tu veux dire.
Hors ça, parce que dans toutes ces équipes qui sont entre 100 et 140 millions, t'as raison, de budget.
Oui, là, après, on est dans les mêmes eaux. Hein.
On est dans les mêmes eaux.
Et il suffit d'un joueur mal recruté.
Je fais la différence entre celles qui ne jouent pas la Coupe d'Europe cette année et les autres. Et on l'a vu, la différence. On a vu la différence entre celles qui se font éliminer,
oui, c'est toujours
et les derrière
impactant.
Qui performent.
C'est toujours impactant.
Donc, au début de saison, moi, j'avais vu ce fait-là, que l'équipe me semblait quand même pas mal composée, même s'il manquait un meneur de jeu, à mon avis, et que Szymanski a un peu réglé
bah, l'équipe,
ça.
L'équipe, hey, Flo, même là, l'équipe mal composée. On s'attendait quand même à ce que...
Non, pas trop mal composée.
Oui, pardon. On s'attendait quand même à ce que, après son arrivée un peu bizarre, et avec une remise en forme, Fofana soit peut-être un peu plus important. Rien. Il y a des joueurs qu'on n'attendait pas à ce niveau. Ton ami El Tamari, au final, ça va être un des meilleurs Rennais cette année. On pensait pas qu'il ferait ces performances-là. On a découvert le, comment s'appelle ton ami au milieu, le jeune qui a du ballon, Szymanski, là.
Szymanski, oui. Non, mais lui, il est arrivé à la moitié de la saison. Lui,
non, mais au début de la saison, il faisait pas partie des mecs qu'on mettait.
Il est arrivé cet hiver.
Mais même quand il arrive cet hiver, tu te dis pas, ce gars-là, il va être dans les premiers qu'on va citer. Donc, encore plus quand tu me dis, il arrive cet hiver, donc c'est encore, ça renforce encore plus ce que je dis. C'est en plus pas dans le schéma de l'équipe dont on pouvait prévoir au début de la saison ce qu'elle allait faire. On a découvert tout au fur et à mesure de la saison l'équipe. Mais encore une fois, c'est exactement comme Marseille, comme Monaco, comme Lyon. On est allé de découverte en découverte sur le potentiel de chaque équipe. Et comme Lens aussi, on s'attendait pas à ce qu'ils fassent ça. Il y a des joueurs sans garer, jamais de la vie. On imagine que le gars va faire cette saison, Udol et les autres.
Ce qui est intéressant de noter, c'est que tu as un budget. T'as raison, l'équipe, elle est pas évidemment aussi forte qu'on peut l'imaginer dès le départ. Mais tu peux après te dire avec, tu attends un peu le projet de jeu, tu attends de voir ce que tu vas voir sur le terrain. Ce qui s'est passé avec Genesio il y a quelques années à Rennes, ce qui plaisait, c'était pas seulement le classement, c'était le contenu, c'était ce que tu voyais sur le terrain.
Moi, c'est là où je voulais en venir, justement.
Or, Pierre Sage, par exemple, ce qu'il a fait avec Lens, en dehors du classement, c'est que tu t'es dit, cette équipe-là, elle est dingue, on a envie de la voir jouer, il y a un truc qui se passe sur le terrain.
Ça, on l'a jamais vraiment eu à Rennes.
Et à Rennes,
ça, dire, moi, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord que ce qui s'est passé là.
T'as vraiment envie de chercher la petite bête avec
Rennes, quand même. Moi, je suis d'accord que dans le jeu, tu pouvais attendre un peu mieux. Et au niveau du travail de Francaise, moi, j'attends beaucoup pour l'année prochaine, justement, parce que je pense que ce qu'il a fait là, c'est juste de relancer des joueurs qui étaient en embrouille avec le coach précédent. C'est deux, trois ficelles de management qu'il a très bien fait pour aller chercher ses résultats de fin de saison. Bravo à lui. Mais là, moi, je l'attends un peu plus pour l'été prochain, où il va avoir les mains libres pour constituer l'effectif, pour travailler un peu plus sereinement. Et là, je serai un peu plus exigeant sur le jeu, d'autant plus s'il y a Ligue des Champions.
Non, mais c'est ça, c'est plus un discours d'exigence. Bien sûr que c'est génial, puisque pour l'atmosphère qu'il y avait au stade, l'ambiance qu'il y avait au stade dimanche, hier, et pour toute la fin de saison, pour le pôle, l'histoire elle est incroyable en fait par rapport au recrutement, parce qu'à chaque fois à Rennes, il se passe la même chose. Tu recrutes, tu dis putain, les mecs, ils ont mis un paquet sur des joueurs, on sait pas pourquoi, puis à la fin tu dis ah bah oui, ok, maintenant il y a une offre de 40 millions pour le pôle. Bon, c'est sûr que tout ça c'est très bien. C'est juste de dire, comme disait Jean-Louis, moi je veux voir la patte aise, je veux voir du jeu et je veux voir des joueurs et des créateurs. En fait, Rennes a une tradition dans ce domaine-là. Tu es passé de Bourigeaud à Terrier et t'as attendu un peu d'avoir dans l'hiver Szymanski, parce que sinon c'est Rongier et gloire à lui, parce que il est arrivé de Nantes, il est arrivé avec le passé nantais et c'était pas simple pour lui. Donc cette histoire-là, elle est belle, mais voilà, après derrière, effectivement, que si en revanche il gagne à Marseille et que là il joue avec des champions, je te dirais oui, ils ont surperformé là dans ce cas-là.
Les gars, quelques infos avant notre quiz final. Déjà, demain, barrage entre le Red Star et Rodez. Le Red Star reçoit Rodez et le vainqueur de ce match jouera contre Saint-Etienne, donc ici à la fin de la semaine.
Rodez, du président, ton ami, président Murat.
C'est le tien.
Tu sais qu'il paraît qu'il rachète une entreprise.
Ah bah très bien.
L'entreprise Baran.
Bon. Pour ceux qui avaient des poupons en cuir, peut-être ils savent ce qu'est l'entreprise Baran. Aujourd'hui, ça se fait plus trop. Je ne sais pas si ça marche toujours, Baran. Je ne sais pas si ça vaut le coup d'être acheté, j'en sais rien.
Raphaël Baran
En tout cas.
Je voulais faire une.
Rodez qui n'a plus perdu un match depuis janvier.
Vous avez le droit d'applaudir.
Rodez n'a plus perdu un match depuis janvier.
Moi, je voulais juste rappeler que les pompes de la Brune étaient nickel depuis que Murat passe régulièrement dans son bureau. Bureau, de toute façon, non, je dis n'importe quoi, parce qu'il n'est jamais au bureau, Vincent Labrune. Tu sais que personne ne le voit passer, tu sais, les locaux absolument magnifiques.
Moi, je l'ai vu à Munich.
Ah, Munich, tu sais, qui s'est transformé en supporter numéro 1 du PSG, lui qui était anti-PSG il y a 10 ans encore. C'est quand même incroyable.
Il était président de l'OM.
C'est fou, quand même, qu'une tape dans le dos et une poignée de main peuvent faire.
Bon, un autre exploit de Luis Enrique, c'est d'avoir retourné le président de la LFP.
Oui, là, je ne suis pas sûr que ce soit Luis Enrique.
Et puis la Coupe du Monde arrive, quelques infos. Info très importante aujourd'hui au Brésil. Neymar est dans la pré-liste du Brésil.
Ouf.
Oui. Pré-liste.
Oui. Donc ça va être l'attraction de la
Ça enflamme. Après, Brélis, ça ne va pas dire qui est. Ah, toi, tu le vois déjà dans les 26.
Qui est, ce sera une histoire incroyable.
Ah oui.
Bah oui, Daniel, on sera là-bas pour constater Neymar énorme à la
problème, il peut y aller, moi, si ça lui fait plaisir.
Attention, parce que dans la pré-liste, il y a la 50. Hein.
Oui, 50.
Donc, ça veut dire qu'il va en enlever.
Mais il est au courant qu'il n'y a pas de match à Vegas. Parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est Las Vegas, surtout, quoi. Il n'y a pas de match à Las Vegas.
Non, non. Et dire que vous auriez pu être ensemble à une table au championnat du monde de poker.
Alors, on a failli l'être.
Ah ouais.
On n'est pas passé loin d'être à la même table il y a 2 ans au championnat du monde.
Ouais. Et puis alors il y a des listes qui commencent à tomber. Donc jeudi soir on a une soirée spéciale sur RMC avec la liste de Deschamps et il est au journal de 20h. Après il y a une
liste des 26.
Liste des 26. Après il y a une grande conférence de presse qui va durer sans doute près d'une heure. Et ensuite l'after débriefera tout ça bien sûr jeudi.
Une heure de conf de Deschamps.
Ah oui, mais c'est la dernière.
Ouais, c'est.
Là, non, il y aura celle de la Coupe du Monde.
Oui, non, mais la dernière de la liste, longue comme ça, tu vois.
Ouais. Oh mon Dieu.
Mmh. Au bout de combien de questions, on va parler de Tolisso?
Qui va lui poser la question sur Tolisso?
Jean-Louis.
Tu parles pas de Gilles Boulot, tu parles de la conf derrière.
Bah oui.
Ah, je pensais quand il est au JT avec le présentateur.
Non, contraire.
Bon, on ira lui poser les questions, bien sûr.
Bon. De toute façon, c'est va être une liste en. Bon, on en reparlera sans doute demain, après-demain, mais je veux pas quelle surprise.
Aucune surprise. Ouais.
Une surprise? Bah. Est-ce qu'il nous fait une petite surprise ou pas?
Bah, il y a toujours au minimum.
Ah oui, normalement, il y a un petit truc.
Ah bon, voilà, je vois pas qui.
Il est obligé statutairement de rester à 26?
Non.
Donc il peut
Ah ben bah, en 2022 Benzema est parti, il l'a pas remplacé, il s'est dit que ça se remplaçait pas Benzema.
Mmh. Non mais je veux dire, il peut faire 28.
Pas cette histoire.
Il peut faire un peu plus.
Si, la surprise ça peut être le Paul.
En plus bah c'est un réserviste jusqu'au dépôt final de la liste, mais sinon c'est 26, mais ça peut être un peu moins aussi hein.
Ça peut être un peu moins, d'accord.
Et donc aujourd'hui on a eu la liste de la Bosnie avec Dzeko, le Lensois Celik notamment, donc c'est la première liste qui est tombée là officiellement.
J'aime bien.
Ah ouais, je me demandais pourquoi tu voulais vous parler de la liste de la Bosnie.
Non mais j'aime bien.
Il y a peut-être une polémique.
Moi je m'intéresse. Est-ce qu'il y a le podcast Bosnie déjà?
Bien sûr, oui. Tous les podcasts alors, pays sont en
ligne. La Bosnie est à la Coupe du Monde alors?
Bah, bien sûr, tu verras, ils vont se qualifier.
T'as commencé à t'intéresser à la Coupe du Monde toi, ça fait plaisir.
Non, c'est juste que je pensais à la Bosnie, c'est tout.
D'accord.
Pour un autre motif.
Bon, il nous reste 5 minutes et en 5 minutes, on va faire un petit quiz final. Et là, petit quiz final, je vais vous expliquer ce qui se passe. On va faire 3 équipes. L'équipe Jean-Louis, l'équipe Daniel et l'équipe Florent. Traditionnellement, Daniel est au centre, ce qui ne lui ressemble pas. Donc, on va mettre Daniel à gauche ce soir. Il va prendre la partie, voilà. Il va prendre la partie de la salle à gauche. Florent reste à droite. Voilà. Et Jean-Louis va s'occuper de la partie du milieu. Donc, un petit quiz pour rigoler. Hein, là, voilà, il y en a, des t-shirts de l'after à vous offrir qui vous seront.
Le quiz, ça peut pas être sur Valence, non, c'est sur quoi?
Qui vous seront distribués. Pourquoi ça pourrait pas être sur Valence?
Je sais pas.
Est-ce qu'il y a
on va dire quoi sur Valence?
Comme s'il se passait jamais rien à Valence. Incroyable.
Alors, qui est bon là? Qui?
Il y a des bibles ou pas?
Alors.
Par là.
On va voir. Hein.
Écoutez bien.
Là, il y a des bibles.
Valence a été en Ligue 2.
Ah, Valence.
Ah, Ligue 2. Valence a été en Ligue 2. La dernière fois que Valence a été en Ligue 2, c'était la saison 99-2000.
Oh là là. Depuis, y a des gens, là, sur Valence, là.
Ils y sont jamais retournés.
Et bon, sur
Valence. Vous m'avez mis du côté où il y a personne de Valence.
Alors, oui. Valence. C'est très simple. On va pas faire un truc sur Valence. On va faire un truc sur la D2.
Oh là.
Et
oh.
Oui. Il y avait 20 clubs en D2 cette année-là. Oh. Vous allez, chaque équipe va devoir me citer des clubs qui étaient avec Valence en D2 cette année-là.
Quelle année
99-2000. Je vous donne des indices. Par exemple, il y a plusieurs clubs de la Côte d'Azur.
C'est sûr.
Par exemple, il y a des clubs dont l'emblème sont des animaux. Il y en a plusieurs. Dans le foot français, c'est assez facile.
99-2000.
Il y a même des clubs qui, cette année, ont joué la Coupe d'Europe. 99-2000.
Bon, ça lève la main là-haut, donc on va aller voir les spécialistes.
Daniel, ton équipe commence.
C'est à nous de commencer?
Ouais, c'est à vous.
C'est sûr, 99-2000.
L'AS Cannes était effectivement en D2 cette année-là. C'est bon. L'équipe Tour. L'équipe du centre.
C'est nous là?
Ouais.
Mulhouse.
Mulhouse, cette année-là.
Non.
Mulhouse non. N'était pas en Ligue 2, c'est pas bon.
Saint-Denis.
Éliminé.
Nior.
L'équipe Gautreau.
Nior.
L'équipe Gautreau.
Non, ils l'ont cité.
Non, l'équipe Gautreau, c'est à vous de jouer.
C'est à nous?
Ouais.
Nior.
Nior, c'est bon, les Chamois. L'équipe Riolo.
Les Crocos.
Les Crocos Nîmois, c'est bon. L'équipe Gautreau.
Le Red Star.
Vous dites quoi?
Saint-Étienne.
Saint-Étienne, ceci est une provocation. Saint-Étienne, c'est pas bon. Si l'équipe Riolo a un dernier,
Sochaux.
L'équipe Riolo gagnera ce quiz. Sochaux, c'est bon. Victoire.
Allez hop, c'est bouclé.
Victoire des Riolo.
Voilà.
Qui marque un point. Bon.
Merci.
Allez, Wascal.
Ah, attention, il y avait Wascal.
Quiz verrouillé ici.
Il y avait Wascal, il y avait Créteil. Bon, Valence avait fini avant-dernier. Hein. Le dernier, c'était.
Non, mais je peux pas arriver là-bas.
Les derniers, c'était Lou en Cuiseau. Et les premiers, c'était Lille, qui était en D2 à l'époque, qui montait en D1. Alors, cette année-là, 99-2000, le coach de Valence était, vous le saviez,
Didier Notto.
Bruno Metsu, bien sûr.
Ah, ça fait un point pour nous.
Bravo. Bruno Metsu, qui d'ailleurs avait quitté le club en cours de saison, parce que bon, les résultats n'étaient pas top. Mais alors, Bruno Metsu, il a eu une longue carrière de joueur.
Oh là là.
Et donc, vous allez devoir réfléchir dans votre coin. Et me faire une proposition dans quelques instants.
On s'en fout, hein, vraiment.
Bah, c'est pas parce que tu ne sais pas qu'on s'en fout. Je connais tes feintes. Dans quel club Bruno Metsu a-t-il joué le plus de matchs dans sa carrière de joueur?
Ah,
Je vous laisse réfléchir. Dans quel club Bruno Metsu a-t-il joué le plus de matchs dans sa carrière de joueur?
Je sais.
Il a joué où?
Je vous laisse réfléchir. Je vous laisse 30 secondes. Tiens, Jean-Louis, là, t'as des gens déterminés au premier rang, hein, qui semblent
à l'autre bout.
Il faut dire quoi, en fait, là où il a le plus joué?
C'est quoi?
Bah oui, c'est.
Valenciennes, c'est là où il a le plus joué.
J'ai un Valenciennes.
Attendez. Proposition de l'équipe Riolo.
Valenciennes, on l'a dit.
On l'a tous.
On l'a dit il y a 10 minutes, nous, déjà.
Nice. Attends, proposition de l'équipe Gautreau.
Nice, 67 matchs.
Proposition de l'équipe Tours.
Non, j'ai dit
Nice, 67 matchs.
La bonne réponse, c'est Valenciennes.
Merci,
victoire.
Au revoir.
Victoire de l'équipe.
2-0, je vais jouer entre eux maintenant. Non,
victoire de l'équipe Gautreau. Dernier petit quiz.
Non, mais moi, j'abandonne. Franchement, ils sont trop nuls, Gilbert.
C'est vrai.
C'est pas possible. Non, mais là.
T'as 100 personnes dans ton équipe.
Premier rang, ils me donnent 2 saucisses au début. Là, ils me font tout traverser pour me dire encore une erreur. C'est bon. C'est pas possible.
Allez, dernier petit quiz avant que Julien Cazard arrive parmi nous. Je reviens à Henrik Mkhitaryan.
Vous m'avez dit Mulhouse, là.
Quiz en chair. Combien de sélections en équipe d'Arménie a aujourd'hui Mkhitaryan? Combien de sélections en équipe d'Arménie a aujourd'hui Mkhitaryan? Daniel, tu mènes. Ta proposition?
95.
C'est quoi la question?
Attentif. Combien de sélections Mkhitaryan en équipe d'Arménie? Daniel dit 95, le plus proche aura gagné. Faut être stratégique, les gars, maintenant. Attends. Jean-Louis?
96.
97.
Flo, 97. La bonne réponse était 95. Victoire incontestable de l'équipe Riolo qui pourra récupérer ses t-shirts de l'after tout à l'heure.
Oh, les gars, prenez les t-shirts, régalez-vous, ils sont là, ils arrivent.
Comme quoi, Daniel, quand t'es à gauche, ça gagne. Voilà, c'est le bilan de cette émission. Voilà, quand Daniel est à gauche, ça gagne. Julien Cazard est-il parmi nous, Julien?
Oui, bonsoir, bonjour à tous.
Julien, voilà, l'Arménie à l'honneur ce soir. Et
oui,
à toi.
Valence, ah là là, Gaïska Mendieta, la finale contre le Bayern, c'est que des souvenirs magnifiques.
Ouais, contre l'OM surtout.
Ah non, c'est pas le même, pardon. On embrasse la chef 3 étoiles, comment elle s'appelle, Pic.
Anne-Sophie Pic,
évidemment, et puis toute la communauté.
Et Colégram aussi, hein.
Que je connais pas.
Tu embrasses Colégram aussi.
Qu'est-ce qu'il y a au programme de Nuit du Casar enchaîné, mon cher?
On va revenir sur les plus belles récompenses que vous avez eues, parce que là, il y a eu des belles récompenses, Pierre Sage, tout ça. Donc, on va revenir sur la récompense qu'on a tous reçue un jour dans notre vie et dont on est fiers. Toi, Gilbert, c'est quoi la plus belle récompense que tu as reçue? Micro d'or?
Le prix du brushing.
Ah ouais. Non, par contre, on a eu récemment les Bravos d'or pour la
Bravo d'or, ouais.
Remis par Nagui sur France 2, quand même.
Ah bah, donc ça annule tout, parce que Nagui, quand même, quand il te remet un truc, c'est comme si tu vois. C'est quand même
on était plutôt contents.
Je pensais qu'il parlait des récompenses à l'école.
Non, il y a toute la récompense. Non, putain, moi, franchement, je préfère pas avoir de prix qu'avoir un truc remis par Nagui, quoi.
Déjà, non, une chance. Que... Franchement, c'était bien. C'était valorisant.
Ça va? Même donné par Nagui? C'est que c'est un ami
qui est méchant. Oui, il n'y a pas de problème. Hein. On a pris. On prend tous les prix, nous.
On en a parlé, d'ailleurs. C'est quoi ton.
J'ai gagné un concours de karaoké. J'en parlerai.
Ah?
Ouais. C'est mon seul prix, bien, hein. Plus, ah, bah, quand t'as pas fait des
très bonne voix.
Merci Julien, l'élu du Casar enchaîné, c'est tout de suite. Je remercie une nouvelle fois le cinéma Pâté de Valence, incontestablement le meilleur cinéma de la ville, qui nous a accueillis et qu'on remercie. Merci à tous d'être venus. Comment on dit chez vous? Je sais plus. Merci à tous, merci Flo, Daniel, Jean-Louis. Prochaine étape à Valenciennes le 1er juin. Si vous êtes dans la région, que vous voulez venir, vous envoyez un mail public@rmc.fr pour vous signaler. C'est totalement gratuit, évidemment. Bonne nuit à tous, merci. Et à demain soir dans l'After.
RMC jusqu'à minuit.
Les 20 ans de l'After Foot en direct de Valence.